Mercier.
Angelina, bonjour.
Rendez-nous visite au justepourtous.ca.
Kenel, bonjour.
Un message de Revenu Québec.
Si je vous reçois aujourd'hui, c'est parce que vous avez travaillé ensemble sur La Cité Oblique. Qui est un
amateur de rock, le samedi soir, c'est à CKIL, ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Ça commence par un café, cette histoire. L'histoire, la conception de, du livre de la série.
En fait, la série Oblique, c'est lui de William Schneider, de Thomas Nicoté, qui est le directeur du Festival de Québec BD. On s'est rencontrés, on était une délégation d'auteurs au Festival de Colomiers en France en 2017, je pense, puis il m'a jasé de ça. Puis on, il me dit, écoute, est-ce que tu connais Lovecraft? Je dis, oui, je connais un peu. J'ai lu un peu adolescent, tout ça. Il me dit, savais-tu qu'il était venu à Québec? Puis ton style fonctionnait super bien avec son imaginaire. Fait que là, moi, je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est pas fou. Puis j'ai commencé à creuser la question.
Je me sens frais.
Puis je me suis dit, bon, je vais lire son texte.
Comme une glace battue.
Le texte était assez drabe.
Un soir qui fait bien frais.
Moi, Pierre-Mère, on a dit qu'il était beige.
Ouais, oui, je l'ai dit.
Puis.
Et puis j'attends.
Je peux pas juste faire des images.
Que la marée remonte.
Donc j'ai carrément créé des images à partir.
Pour enfin retrouver. Un semblant de route.
Oui, le texte original restait quand même.
Veux-tu être ma
lune
qui m'éclaire dans mes
bras. C'était quand même étonnant avec le texte original de notre phrase.
Veux-tu être mon sens.
Le texte était pas tant là.
Qui m'entraîne en avant.
Quand j'ai découvert le texte aussi, le texte de Lovecraft.
C'est-tu parce que j'ai vu le feu que je vois plus les étoiles filantes, ou bien que mes yeux plus vieux embrouillent mon espérance.
Jamais retravailler des planches autant. Moi, j'ai mis presque 180 planches à Antoine. Puis je pensais que j'avais fini.
Le printemps.
Le travail commençait.
Derrière son pied, ça
Quand je
Il travaille d'ailleurs sur d'autres expositions à la BD, donc à la BD au sens pluriel, par extension. Oui. Et puis je le connaissais aussi par l'entremise de mon Frédéric Durand, qui est aussi écrivain, et bon, il aime jamais quelqu'un qui est collectionneur pour dessiner, je vais essayer de le dire. Et puis c'est une des façons.
Je procède à la campagne. Je travaille sur des tapis. Pas toujours, quand je reçois tout le monde. J'ai beaucoup travaillé, puis avec des couleurs. Oui, il y a ça aussi sur la couverture.
Y a-tu café sur la page
couverture? C'est du thé, en fait. C'est précis, ouais. Je travaille avec du thé, mais j'étais chez mes parents, puis j'ai taché la main. Donc,
je suis d'accord avec toi sur le thé.
Aussi sur une table
de chimie. Oui, ça l'aide pour créer des informations. Ça fait vraiment cet effet-là. Il faut travailler avec toi. C'est vraiment, ça dépend des effets que tu vois. Tu vois, si tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu c'est très très, très lumineux.
Wow, c'est intéressant de voir comment tu es créatif là-dedans, parce que c'est un travail qui est créatif à la base, mais j'ai l'impression que tu repousses beaucoup les limites déjà établies.
Ben, tu sais, moi, je me bats contre la fameuse citation, le style bande dessinée. Il n'y a pas de style, il n'y a pas d'esthétisme en bande dessinée. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, parce que bon, les journaux ont standardisé, puis certaines maisons d'édition ont standardisé ça, mais ça n'existe pas. Je veux dire, la bande dessinée, c'est un mode opératoire d'un récit par image. C'est des images qui sont juxtaposées. C'est un soldat en fait qui raconte une histoire. Moi, c'est vraiment là-dessus que je travaille. Puis l'esthétisme, pour moi, c'est juste.
Samedi le 14 mars 2026 et vous écoutez Hôtel Poésie sur les ondes de CKIA 88.3, CKIAFM.org. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Laure. Vous écoutez Hôtel Poésie sur les ondes de CKIA FM, CKIA.org. On a un petit peu de retard sur le début de l'émission. On a eu des petits enjeux techniques, mais tout ça est réglé. Donc, on se lance dans Hôtel Poésie. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre « Les aiguilleuses du ciel » de Corinne Larochelle, qui est paru il y a quelques semaines au Cheval Doux. C'est le tout premier recueil de Cheval Doux, donc de poésie. Donc, j'ai très hâte de vous parler de tout ça. Mais avant, j'accueille en studio Ariane Tapp, qui vient me voir pour la parution de son deuxième recueil de poésie, « floraison au poète de Brousse. Bon matin, Ariane.
Bon matin.
Donc, Ariane, je suis très, très contente de te recevoir à Hôtel Poésie. On va parler un peu de floraison. Donc, Ariane, tu es poète, tu es réviseur. Également, tu es la directrice de la programmation francophone aux voix de la poésie, qui est un organisme pan-canadien de la promotion de la poésie en milieu scolaire. Donc, ça, on en a bien besoin parce que, voilà, moi, mon primaire est dans ça fait un petit bout, là, mais je me rappelle que c'était pas ce qui était le fun à ce moment-là. La poésie. Donc, cet organisme-là, tu peux-tu m'en parler un peu?
Certainement. Oui, effectivement, mon Dieu, j'aurais aimé ça que ça existe quand moi j'étais à l'école. les gens ont peur de la poésie.
Tout à fait.
Même les profs, malheureusement. Donc, ça se transmet de prof à élève. Donc, on est un petit peu là pour ça. On existe depuis 2010. Puis au départ, on était juste un concours de récitation de poésie qui a commencé en Ontario. Puis, donc, ça s'est étendu au reste du Canada. Puis après, ça s'est développé avec beaucoup d'autres ressources et programmes. Donc maintenant, on a toujours notre super concours de récitation de poésie, mais on a aussi des concours d'écriture. On a une super grosse anthologie de poésie en ligne avec des questions là, d'approfondissement. On a des plans de cours pour les profs. On offre des visites de poètes dans les écoles. On a un stage poétique. Donc vraiment plein de belles choses pour, à la fois pour les profs et pour les élèves, pour les intéresser à la poésie si possible, puis pour leur faire voir que la poésie, dans le fond, ben, ça peut être accessible puis ça peut parler à tout le monde.
Mm-hmm. Puis, toi, tu es la directrice de la programmation francophone, donc j'imagine qu'il y a ton homologue du côté anglophone.
Oui, tout à fait. Donc, comme on est un organisme bilingue, ben, tout ce qu'on fait dans une langue, on le fait aussi dans l'autre, idéalement. Donc, voilà, on travaille à la fois dans les deux langues, donc avec des enseignants, enseignantes d'anglais et de français. Et même chose, donc des poètes qui écrivent en français et des poètes qui écrivent en anglais.
Puis, tu parlais du concours de récitation. Est-ce que c'est les vidéos qu'on voit sur YouTube?
Oui.
Ceux-là? OK. Parce que je me souviens, une année, j'étais tombée sur ces vidéos-là et j'avais été soufflée par le talent. Oh mon Dieu, il était tellement bon pour des jeunes secondaires, là.
Bien, on parle de milliers d'adolescents là, qui font ce concours-là dans leur école. Et donc, nous, ce qu'on reçoit, ben, c'est les champions-championnes de leur école. Là, t'sais, donc oui, il y a du talent incroyable là-dedans.
Oui, vraiment. Et là, je te reçois aujourd'hui pour ton nouveau recueil « Effloraison », publié au Poète de Brousse. Mais ça fait on a pu te lire à quelques reprises quand même. Tu as publié un premier recueil, « Ce qui ne peut se défendre » en 2017 aux éditions du Sablier. Tu avais également eu une nomination au prix Geneviève Amiot que tu as finalement gagné quelques années plus tard. Puis, tu as aussi été sélectionné au prix de poésie Radio-Canada en 2020. Puis ton texte est paru dans... Il y a eu d'autres textes parus dans des revues. Et là, tu arrives avec ton deuxième recueil. Il y a une question que je pose toujours à mes invités. Et si je la pose toujours d'emblée en début de rencontre, parce que j'aime ça savoir qu'est-ce que c'est pour toi la poésie.
C'est la grande question. j'ai réfléchi, puis je pense que pour moi, la poésie, c'est comme un langage en soi, tu sais, parce qu'on utilise les mêmes mots que la langue de tous les jours, mais on n'exprime pas les mêmes choses, tu sais. Pour moi, je pense que la poésie, ça me permet d'aller dans des zones un peu plus complexes, un peu plus intérieures, parfois plus sombres. Puis, autant dans la lecture que dans l'écriture, tu sais, ça me permet des fois d'aller chercher des réponses à des questions que je savais pas que je me posais, tu sais. Puis pour moi, y a juste la poésie qui fait ça, tu sais, ou l'art, on pourrait étendre jusqu'à l'art en général, mais pour moi, c'est vraiment différent du langage de tous les jours.
Et là, Effloraison, donc avec une superbe couverture de Nadia Morin. Est-ce que vous connaissez ou comment ce match de couverture s'est fait?
Oui, ben je connaissais Nadia, je connaissais un petit peu son œuvre, mais je connaissais pas sa série aussi peu là, de secrets.
Oui.
Et puis. En fait, c'est parce que je me disais, peut-être j'aimerais ça, tu sais, lui demander une œuvre originale, tu sais. Mais bon, normalement, c'est pour... en tout cas, au Poète de Brousse, c'est surtout des œuvres qui existent et puis on demande, bon, les droits pour la couverture. Puis j'ai dit, ah, ben je vais aller voir, tu sais, d'un coup, qu'il y a quelque chose qu'elle a déjà fait que...
Ouais.
Puis là, j'ai parcouru toute la série de secrets, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est donc ben beau. Puis il y en avait plusieurs que je trouvais qui fitaient. Puis ça, c'est le secret 69. Puis, genre, j'étais comme, ben voyons, on dirait que ça a été fait... Mm-hmm. pour le livre. Je trouve tellement que tous les éléments du collage répondent à certains aspects du livre.
Oui, vraiment.
Fait que, c'est ça, on se connaissait un petit peu, puis j'ai dit, est-ce que peut-être que tu pourrais, est-ce que... Puis elle dit, ah ben oui, ça me ferait plaisir. Fait que là, j'étais vraiment contente.
Puis c'est aussi une artiste de Québec. Fait que,
tout à fait, ben oui, on apprécie. Ça le fun, oui.
Donc, parle-moi des floraisons. De quoi ça parle, ce beau recueil de poésie?
Ça parle de beaucoup de choses. Tu sais, sous le coup, on pourrait dire « Ah, oh, c'est une histoire d'amour », mais j'étais comme « Eh, moyen ». Ça commence comme une histoire d'amour, mais tu sais, vite, il y a, en bon français, des « red flags ».
Oui.
Puis, ben, on se rend compte que cette relation-là apporte plus de mal que de bien. Donc, si ça touche à la toxicité, ça va toucher à l'anxiété, à la maladie mentale, ça va toucher aussi au désir, à la honte, puis même jusqu'au deuil, tu sais, ça parle aussi de violence, surtout psychologique. Mais bon, c'est pas que du lourd, là, on va quand même vers une certaine... recherche, reconstruction de soi, réappropriation de soi puis de son corps. Donc, il y a beaucoup de choses. Puis je trouvais que c'était des thèmes qui étaient importants à aborder.
C'est ça, c'est comme si ça revêt les manteaux d'une histoire d'amour au tout début parce que c'est très foudroyant, c'est très poignant aussi, cette relation-là. Comment tu empruntes aussi un jeu? Donc, tout le recueil est écrit au jeu. C'est très ancré dans une histoire peut-être qu'on imagine personnelle, mais comment tu te positionnes par rapport à ce jeu-là?
Mm-hmm. Bien, tu sais, déjà, je pense qu'on a tendance à faire un rapport d'équation entre un jeu d'un recueil de poésie puis son auteuriste. Puis il faut faire attention avec ça, je pense, parce que, tu sais, des fois, on se dit, ah, bien, dans le fond, un recueil de poésie, c'est comme un journal intime. Je suis comme, ben pas nécessairement, tu sais. Puis, tu sais, souvent, on met la poésie dans la fiction, puis je suis comme, ben oui, parce que c'est de la fiction. Au final, tu sais, on pourrait dire que ce recueil-là, c'est un peu de l'autofiction, parce que oui, j'ai emprunté dans des sentiments puis des expériences vécues. Mais tu sais, ce jeu-là, même s'il part de moi, tu sais, il y a eu quand même beaucoup là, d'extrapolation, d'exagération, d'amplification, tu sais, c'est beaucoup plus noir, c'est plus dur aussi. Fait que c'est on pourrait dire que c'est ça part d'un jeu, mais ça reste quand même fictionnel, tu sais. Puis le but, c'est aussi de un peu comme d'amplifier, tu sais, l'évocation que les images peuvent avoir, tu sais.
Et bon, on en a parlé brièvement déjà, le recueil est en trois parties, donc ça forme un arc narratif de l'euphorie des premiers jours. Après ça, il y a une espèce de désenchantement, on disait les drapeaux rouges commencent à se lever tranquillement, et là ça va jusqu'à la souffrance, la reconstruction. Est-ce que cette forme-là s'est imposée dès le départ, ou c'était plutôt épars, puis là c'est devenu le recueil que c'est maintenant?
Ben, j'ai beaucoup de la difficulté à pas faire d'histoire quand j'écris, même en poésie. Peu importe la forme d'art que j'emprunte, même en danse contemporaine, je raconte des histoires. Donc, c'est sûr que ça allait raconter quelque chose. Donc, vraiment, un arc narratif, c'était comme... J'ai même pas pensé, c'était sûr qu'elle allait être là, tu sais. Mais en fait, au départ, c'était censé être sous forme de dialogue. Donc, c'était vraiment censé comme un peu ressembler, tu sais, comme vraiment une conversation entre le jeu et le tu. Puis, donc, il y avait chacun leur place dans la page, tu sais, un peu comme dans Messenger ou dans un logiciel de texto, on pourrait dire, là. Donc, tu avais le jeu à droite, tu avais le tu à gauche. Mais tu sais, au fur et à mesure que j'avançais, parce que tu sais, là, au début, quand j'avais cette idée-là, on est encore un peu dans la première partie.
Ouais.
Donc, je savais pas où ça s'en allait, tu sais. Et puis, finalement, ben à force d'écrire, ben là, rendu plus loin dans l'écriture, ben là, il y avait de moins en moins de tu et de plus en plus de je. Mm-hmm. Mais j'avais gardé cette forme-là un peu de dialogue. Puis c'est une de mes lectrices, tu sais, qui m'a dit « Ah, mais là, on dirait que tu tasses la parole du je comme de côté, tu sais, puis que tu donnes plus de place au tu et tout ça. » Puis j'avais pas vu ça de même, mais j'étais comme « Ben, c'est tout à fait valide. » Donc finalement, on a comme remis front and center, en bon français, le je. Puis ben, ça fait que ce qui restait du tu, puis il en restait plus tant que ça, ben on l'a mis en italique, tu sais, pour... Okay. Pour différencier justement leurs paroles. Donc, ça, maintenant, la forme est très classique. Là. Il n'y a pas vraiment de forme de dialogue aussi peu. Puis, ben, les arcs, en fait, là, les trois parties, c'est venu un petit peu naturellement là, quand j'étais en phase d'assemblage. Donc, une fois que j'avais rassemblé tous mes poèmes, c'est ça, ça s'est un peu imposé de soi, là, de OK, ben là, ça serait dans. Je me faisais un peu une ligne du temps, on pourrait dire, là, tu sais. Puis, ça fait partie d'un peu quelle étape de la relation. Puis, ben, ça a donné, donc, ces trois parties.
Intéressant. Puis, en fait, ça te vient d'où, toi, cette envie d'écrire de la poésie-là? Est-ce que ça a toujours été en toi?
Je pense que oui. Puis, comme je le mentionnais, j'ai toujours créé des histoires là, du plus... plus loin que je me souvienne. Puis, en fait, la poésie, ben justement, on l'évoquait tout à l'heure, c'est venu à l'école, en fait. En sixième année du primaire, j'avais une stagiaire qui nous a fait des petits ateliers de poésie. Okay. Tu sais, c'était super naïf, super classique, là, avec des rimes AABB. Là. Ouais. Mais ça a comme lancé quelque chose. Puis, ben comme moi, dans la vie, j'aime pas trop respecter des carcans, ben moi, je trouvais que la rime, c'était trop contraignant. Fait que j'ai décidé, j'ai continué à écrire des poèmes, mais en vers libre. Alors, je savais pas c'était quoi des vers libres, mais c'était des vers libres. Mm-hmm. Puis j'ai continué comme ça, vraiment à ma manière, puis en m'inspirant, par exemple, de différents artistes, là, même Pierre Lapointe, quand il a sorti ses premières tunes, ça m'a full inspiré. Mais on le voyait pas à l'école, là, la poésie. Là. Après, ma stagiaire qui m'a donné 2-3 ateliers en 6e année, c'était complètement nul, là, c'est-à-dire genre zéro poésie au secondaire. Ouais. Puis tout ce que je voyais, c'était moi qui fouillais dans les livres de français puis qui lisais par moi-même. Donc, j'ai découvert Émile Lelligan comme ça, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé. Puis en fait, c'est juste venu plus tard au cégep où j'ai vraiment découvert c'était quoi la poésie contemporaine, parce que le peu qu'on voit de la poésie, c'est tout des trucs... super vieux, des hommes blancs morts et enterrés, là, tu sais. Ça a été par un prof de littérature au cégep, Claude Paradis, que je salue, qui m'a vraiment ouvert tout un monde.
Oui, c'est un peu la même histoire que moi, finalement. Parce que moi aussi, c'est Claude qui m'enseignait, je pense qu'il enseignait poésie.
Oui,
c'est ça. Fait. Au cégep de Sainte-Foy. On le salue, Claude. Merci de nous avoir emmenés à la poésie. Tu te rappelles-tu qu'est-ce qu'il t'avait fait lire?
Oui, et puis je me souviens qu'il montait sur les bureaux en déclamant des poèmes. Là.
C'est nécessaire, quand même.
Ben oui. Ah oui, on a lu Saint-Denis Garnon, on a lu Pessoa.
Ouais. Moi, je me souviens de René Char.
René Char, oui. Puis Pierre Morency.
Paul Bélanger.
Ah, moi, j'avais pas lu Paul Bélanger à l'époque avec Claude.
Mais quand même, c'est une figure quand même importante de l'éducation de la poésie vraiment. À Québec, là, vraiment. C'était des beaux souvenirs avec Claude. Et là, c'est ton deuxième recueil. Ton premier recueil, c'était il y a 7 ans environ. Qu'est-ce qui a changé entre les deux dans l'écriture de tes deux recueils?
Oui, ben écoute, ça fait déjà 9 ans, tu sais, 2017, là, c'est fou. Puis, tu sais, ce recueil-là, je l'avais écrit comme dans mes années de bac, là, tu sais, donc on parle début 2010, là, tu sais, même avant, là. Puis, qu'est-ce qui a changé, mon Dieu? Ben, tu sais, ça, c'est la vie, n'est-ce
pas?
Oui. mais, tu sais, en fait, Effloraison, en fait, j'ai commencé à l'écrire en 2019, là, donc ça fait déjà 7 ans, tu sais, déjà. C'est fou. Puis je l'ai écrit jusqu'en 2022, mais tu sais, après ça, ben, tu sais, c'est de l'assemblage, c'est de la relecture, c'est de la lecture par les pairs, c'est du retravail, c'est l'envoi à maison d'édition, c'est le travail, tout ça, donc ça passe très, très vite. Puis qu'est-ce qui a changé? Ben en fait, c'est sûr que depuis 2017 ou depuis l'écriture de Ce qui ne peut se défendre, ben j'ai lu beaucoup de poésie contemporaine. J'ai eu d'autres expériences. J'ai vécu en Allemagne, tu sais, au moment où mon premier recueil est sorti, j'habitais en Allemagne.
Wow!
donc, plein de choses s'est passé. Puis je travaillais sur un possible deuxième recueil à ce moment-là qui finalement a donné le texte qui a été dans la liste préliminaire Radio-Canada, mais finalement qui n'est pas devenu un recueil.
Ouais.
Sinon, dans l'écriture en tant que telle, j'avais commencé un petit peu comme une espèce de méthode d'écriture vers la fin de l'élaboration du premier recueil, parce que je suis pas quelqu'un de très assidu dans la vie. Et donc, la plupart des poèmes, je les avais écrits comme ça quand ça venait, tu sais. Mais si je voulais être un petit peu plus productive, entre guillemets, ben ça me prenait une méthode. Puis bon, ben ma méthode, c'était de rassembler des recueils où je trouvais que la thématique ou le style était semblable à ce que je voulais toucher. Puis donc, je lisais un poème, j'écrivais un poème, je lisais un poème, j'écrivais un poème. Puis c'est quelque chose que j'ai gardé quand même pas mal là, pour l'écriture de Défloraison. Mais c'est sûr que, bon, les influences ont évolué aussi, mais la façon d'écrire, pas tant que ça.
Pas tant que ça.
Ouais.
Puis venons-en donc à tes influences. Est-ce qu'il y a des poètes ou des recueils ou des œuvres qui sont pas du tout dans la poésie qui t'ont guidé pour l'écriture de Floraison?
Pas du tout dans la poésie, de la musique. Plusieurs artistes, plusieurs chansons. Mais c'est sûr qu'il y a des œuvres poétiques qui m'ont beaucoup inspirée. Je pense à l'œuvre de Laurence Veilleux, qui touche justement à la violence sexuelle. Puis, mais tu sais, elle le fait de manière, tu sais, super calme, super posé, avec des mots simples. Puis je trouvais que ça faisait juste comme amplifier un peu la dureté du propos. Puis je trouvais ça super intéressant. Donc ça, c'est sûr que ça m'a beaucoup inspirée. Quand j'ai découvert « Chauffer le dehors » de Marie-André Gill, à ce moment-là, c'était comme le bon moment pour le lire. Ça m'a tellement foudroyée. Fait que c'est sûr que ça m'a beaucoup inspirée aussi là, au moment de l'écriture.
Quel bon recueil, n'est-ce pas? Ben, comme tous les recueils de Marie-André. Est-ce que tu accepterais de nous lire un extrait des Floraisons?
Certainement.
Est-ce que tu as choisi des poèmes un peu éparpillés dans le recueil ou une suite?
Une suite, parfait. Pour de... Je veux pas garfer le punch, même si...
Non,
Donc, c'est un extrait, puis en espérant que ça donne le goût de découvrir ce qui précède et ce qui suit.
On t'écoute.
Je suis belle dans les mots que tu prononces. Une reine, une mouche entre tes doigts. Le creux de ton épaule, parfait repose-tête avant la guillotine. Me cogner sur tous les angles possibles de tes messages, on dirait que je cherche les bleus. Chaque point à la fin de tes phrases, un souffle coupé. Je chiffonne tes silences avant d'avaler. T'accuse des indigestions. J'occupe tout le mètre carré de la salle de bain, porte fermée, lumière éteinte, presque à l'abri de moi-même. Tu es le plus bel incendie de la ville. Étourdi par la fumée, je ne pense pas à appeler les pompiers, incertaine même de vouloir t'éteindre. Tu apparais dans mon cadre de porte, bête piteuse qu'on ne peut se résoudre à laisser dehors. Ma volonté reste sur le perron. Tes mains de bois sec s'embrasent à chaque caresse. Je dors avec la brûlure dans ma gorge. Au matin, tes doigts creusent un tombeau dans mon ventre. Je pleure de gratitude. Ton prénom s'incruste dans mes ligaments, une inflammation. J'échoue à reproduire la calligraphie de la béatitude. J'assemble un album d'avertissement.
Merci, Ariane. Il va y avoir un lancement de ce beau recueil?
Tout à fait, le 26 mars prochain à la librairie Pantoute Saint-Roch.
Parfait, c'est à quelle heure?
À 5 ans, 5 à 7.
5 à 7,
avec
5 à 7.
Un bon mousseux.
Parfait. Puis, est-ce que j'ai halluciné aussi qu'il allait y avoir un lancement montréalais?
Tout à fait. Donc, d'accord. Un lancement collectif avec Poètes de Brousse le 30 avril.
Parfait. Est-ce qu'on va pouvoir te voir au Salon du livre qui s'en vient?
Tout à fait. Donc, oui, je vais être en dédicace, mais aussi j'ai la chance d'être dans une belle petite discussion avec India Desjardins le 10 avril à 10h30, justement autour des amours toxiques.
Oui, parce que India a écrit une espèce d'essai là, sur... c'est super, une très bonne idée de mixer les deux genres ensemble avec India. Ça va être super le fun. Donc, merci beaucoup. On rappelle le recueil Effloraison, paru au Poètes de Brousse il y a quelques semaines environ.
Ça sort le 17.
C'est même pas sorti?
Non.
Ça sort la semaine prochaine.
Donc, vous avez eu une primeur.
Oui, primeur, OK. Donc, n'allez pas à la librairie cet après-midi, ça ne sera pas disponible. Donc,
vous pouvez précommander.
Oui, précommander, ça fonctionne. Donc, en librairie le 17 mars et le lancement le 26 mars en 5 à 7. Pantoute Saint-Roch. Merci beaucoup.
Merci.
Et je vous envoie la pièce Léo rentre à la maison de Valence.
recommence.
C'était le tout dernier single de Bonne Nuit Chérie. Donc, la chanson Sortie de secours qui est sortie cette semaine. Un artiste que j'aime beaucoup, Bonne Nuit Chérie, qui est basé à Sherbrooke. Donc, voilà. Et on enchaîne tout de suite à Hôtel Poésie avec le prochain recueil dont je voulais vous parler, qui est « Les aiguilleuses du ciel » de Corinne Larochelle, qui a été publié il y a à peine... en fait, c'est en février, je crois, donc fin février. Corinne Larochelle est poète. Elle est également romancière, nouvelliste. Elle enseigne la littérature au collège, au cégep. Et elle a publié plusieurs livres, dont le roman Le parfum de Janice et un recueil de petites nouvelles, de vignettes pour cœur appauvri en 2019. Donc, moi, c'est avec ce livre-là, Pour cœur appauvri, que je l'ai découvert. Un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est des petites vignettes qui portent sur l'amour dans toutes ses déclinaisons. Donc, et moi, je relis très, très peu de livres, en fait, dans la vie. Mais celui-là, je l'ai déjà relu plusieurs fois. Donc, c'est un gage de qualité dans ce cas-ci parce que en fait, je vais relire, mais pas de la fiction. Donc, celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup relu. Et là, avec Les aiguilleuses du ciel, son recueil qui a pour point de départ une crise de panique, de terreur qui a eu lieu au-dessus de l'Atlantique. Donc, c'est l'autrice qui a vécu ça. Et à un tel point que elle craint de ne plus jamais pouvoir reprendre l'avion, tellement elle a peur. Donc ça lui crée vraiment beaucoup d'angoisse. C'est pas une seule fois, donc c'est plusieurs, une accumulation, disons-le comme ça, d'événements qui se sont passés en lien avec l'avion qui ont fait qu'elle en a développé presque une phobie. Et puis, elle va essayer vraiment de comprendre sa phobie. Elle va se mettre à lire sur trois femmes qui ont des liens avec, je veux pas dire l'aviation, moi je vais dire les airs, donc ces femmes volantes. Elle va essayer de tenter de comprendre c'est quoi leur attirance pour cette prise de risque-là qui est l'aviation. Et elle va aussi essayer de comprendre comment elles font pour tolérer cette peur-là. Et étonnamment, en fait, ces trois femmes-là sont décédées dans des accidents en lien avec leur pratique, leur métier. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça vous parler un peu des trois femmes sont dans ce recueil-là, parce que ben en fait, il y en a deux, moi, que je ne connaissais pas du tout. La plus connue, bien sûr, Amelia Earhart, qui est née dans la fin des années 1800 et qui est disparue vraiment mystérieusement en 1937 au-dessus de l'océan Pacifique. Donc, on a perdu sa trace et à partir de ce moment-là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui a pu arriver à cette femme-là. C'est la première femme à avoir traversé l'Atlantique en avion, donc une fois en tant que passagère, mais en 1932, elle va réaliser la traversée de l'Atlantique seule. Donc, c'est une première fois pour une femme, mais également, elle va faire un record de vitesse. Donc, c'était pas assez d'être la première femme, elle a aussi établi un record de vitesse à ce moment-là. Elle est aussi la première personne à avoir relié Hawaï avec le continent américain, donc la Californie, en 1935. Et en juillet 1937, elle va tenter une première circumnavigation, donc un tour du monde en avion. Et son avion va disparaître près de l'île Howland, donc on va vraiment perdre sa trace. C'est une figure qui est quand même très inspirante. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit sur elle. Il y a aussi un autre recueil qui s'appelle « Les îles Phénix » de Rosalie Lessard qui est paru au Norrois, qui s'attarde à cette figure-là. Donc, c'est une personne qui vraiment inspire les femmes, les écrivains. Mais les deux autres, moi, je ne les connaissais pas du tout et ça m'a vraiment permis de les découvrir, ce recueil-là, parce que j'ai eu envie d'en savoir plus sur elles. Et il y avait Bessie Coleman. Donc, elle est née aux États-Unis aussi vers la fin des années 1800. Et elle va décéder en 1926 lors d'un accident d'avion en Floride. Elle est la première femme aviatrice noire, donc, et la première personne autochtone à obtenir un brevet de pilote international. Elle est refusée par toutes les écoles américaines et elle doit aller en France pour pouvoir suivre, en fait, pour pouvoir suivre son brevet. Et elle, en plus de tout ça, c'est une spécialiste de voltige, donc elle fait des vols acrobatiques, du parachutisme, et elle va devenir très populaire là, dans les spectacles aériens, et elle va vraiment, elle va refuser, ça c'est une autre chose qui est vraiment très, très, très étonnant, c'est qu'elle va, ben étonnant et non, là, mais elle va refuser de se produire devant des publics ségrégés, et elle va vraiment rêver d'ouvrir une école d'aviation pour les Noirs, mais malheureusement, ça ne va pas se passer parce qu'elle va décéder avant de réaliser ce rêve. Donc, Bessie Coleman, mais l'autre, c'est une Française qui s'appelle Sophie Blanchard. Elle est née en 1778 en France et elle va décéder en 1819 à Paris lors d'un accident dans un spectacle aérien également. Elle, c'est une aérostière. Donc, ce n'est pas les avions, son dada, ce sont les ballons. Donc, que ce soit les montgolfières ou les autres ballons là, qui étaient utilisés pour voler dans ces années-là, donc l'aérostation. Elle va se marier avec un homme qui est un pionnier de l'aviation dans ces années-là. Et elle va même être nommée par Napoléon l'aéronaute officielle de l'Empire. Donc, c'est pas rien. Elle va effectuer plus de 60 ascensions en ballon. Elle va même voler de nuit ou par grand froid. Elle va traverser les Alpes en ballon. C'est vraiment là, c'est que des femmes qui ont fait des exploits. Et j'ai l'impression que Corinne a voulu un peu se coller à ces exploits-là pour se donner du courage, d'affronter sa peur. Et la peur devient vraiment un moteur de création parce qu'à travers ses recherches sur ces trois femmes-là, elle va tenter de comprendre leur attirance pour les airs, pour l'aviation, mais aussi pour la prise de risque qui en découle. Dans ce cas-là, dans le cas des trois femmes, le risque, c'est soldé par, malheureusement, la mort. Et là, il y a vraiment une tension autour de ça dans le recueil. Donc, ça s'ouvre vraiment sur le récit des craintes, sur ce qu'elle ressent quand elle pense à prendre l'avion et comment l'idée de voyager sur les traces d'Amelia Earhart, c'est vraiment un nom de famille qui est difficile à prononcer, vous m'en excuserez. Et là, elle va se dire, donc, je vais aller sur les traces d'Amelia pour tenter de vraiment combattre ma phobie. Elle va donc se rendre en avion à Atchison, au Kansas, qui est le lieu de naissance de l'aviatrice, et de cette symbolique vont naître des poèmes qui s'adressent directement à Amelia, des poèmes qui sont d'une grande beauté, d'une grande liberté. Elle s'adresse d'ailleurs tout au long du recueil, elle va vraiment s'adresser à ces trois femmes. Elle va leur parler. Elle va vraiment puiser à même leur audace le courage dont elle a besoin pour confronter ses peurs. Et c'est de là, en fait, que naît toute l'attention du recueil, cette mise en danger, cette confrontation et la force qu'elle puise dans les histoires des trois femmes. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimer les liens qu'elle tisse entre son expérience, donc la réalité très tangible de l'expérience de son voyage et la vie de ces trois femmes-là. C'est un recueil sur la prise de risque, sur le dépassement, sur la peur également. C'est très narratif. Les poèmes permettent vraiment une traversée. On suit une ligne Leclerc. Il y a vraiment une trajectoire dans ce recueil-là. Donc, autant on en apprend sur la vie de ces femmes-là, autant on va vraiment décortiquer le vol qui amène Corinne, la poète, à Atchison. Ça aussi, c'est difficile à prononcer. J'ai un peu le nez bouché en plus, donc tout ça me fait pas une belle diction. C'est un recueil qui est vraiment très réussi. La langue est vraiment souple, fluide. Les poèmes sont vraiment d'une très, très belle qualité. On est témoin de quelqu'un qui décide de ne plus aller contre la peur, mais plutôt avec elle, de faire avec, d'expérimenter, mais surtout transcender tout ça pour écrire un livre qui est fort et qui est très libre. J'ai choisi quelques pages. Donc, au tout début, quand elle est encore très prise par cette peur-là. Mon guide, l'insomnie. C'est elle qui dicte. Il faut commencer par les chevilles, fondement d'une cadence qui peine à esquisser son trajet. Elle trace le contour puis l'effervescence du dehors. Les repères ébranlés engendrent autant d'oasis spontanées que de jardins en friche. L'éveil encercle la ville. Au-delà des remparts, trouver le visage, la sortie. Au fond, pourquoi repartir? J'oscille entre la bonne et la mauvaise pulsion. À la fatigue du raisonnement s'ajoutent les ampoules du logis. Elles éclatent les unes après les autres. Partout, fièvre larvée. La tension déclenche une série de gestes, appels, réservations. Le choix se fait au sommet de la joue, d'une montagne tangible. Rictus moqueur, je partirai en décembre pour déjouer l'été. Une fois réunis, la veste de cuir, les jodhpurs, l'écharpe rayée, les lunettes, la lancée, le trait, je brûlerai la cage en me logeant entièrement dans le péril. Est-ce que là-haut, j'assimilerai aussi le vertige au vide, l'espace à l'épouvante? lorsque les rafales battront le sol, que mes paramètres se déroberont, d'autres facultés seront s'élever, on me reconnaîtra à mes cils rouges cendrés. Plus tard, je m'injecterai la peur qui donne du courage. Ajout in extremis à la valise. Une photo d'elle. Un manteau de duvet blanc pour braver l'atmosphère. Son empire. Je vois le départ arriver à la perte d'appétit. Boule au ventre à l'enregistrement. Portique du non-retour. Je mélange inspiration et expiration. J'évite la foule en enlevant mes souliers. Balbutie des excuses. À bord, les cadrans surchauffent. Combien de minutes pourrais-je tenir dans ce temps, hors du temps, à égriner les nuages loin de la terre? Les vertèbres s'entassent et se déforment. Comment faire confiance au pilote à l'étroit dans son habitacle? C'est un extrait de Les Aiguilleuses du ciel de Corinne Larochelle. Le tout premier recueil de poésie publié chez Cheval Doux, donc quand même, ça c'est pas rien, et qui est en librairie depuis je crois que c'est le 23 février, là, donc la fin février. C'est tout pour moi cette semaine à Hôtel Poésie. Donc, je vous rappelle le courriel si jamais vous voulez communiquer avec moi. Donc, poésie@ckiafm.org. Je vous rappelle également que le balado est disponible sur Spotify et sur le site web de CKIA. Donc, ckiafm.org. Donc, c'est Chute Madame Lee qui suit. Tout de suite après. Et la semaine prochaine, en chevauchement, ce sera Chatoiement, donc animé par Julie Collin, qui a cette belle émission sur les chats. Donc, je vous laisse en chanson avec Les morceaux perdus de En stéréo.
CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Le vol AB745 est annulé.
Évitez tout voyage en raison des manifestations.
À la suite du passage de l'ouragan, les hôtels sont fermés.
Vous prévoyez un voyage? Personne n'est à l'abri des imprévus. Protégez votre argent. Achetez votre voyage d'une agence qui a un permis du Québec. Vous profiterez gratuitement des avantages du fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Informez-vous au québec.ca/agence-voyage-protection. Un message du gouvernement du Québec.
Musique sans frontières, c'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Une émission qui détend et informe, ça existe. Une heure durant laquelle on vous entretient de faits intéressants, distrayants, mais qui ne sauvent pas des vies. On traite de politique municipale, de la participation des citoyens aux consultations publiques.
À l'occasion, une émission thématique sur une situation particulière, on vous présente des organismes de proximité qui peuvent vous aider à obtenir ou développer le service nécessaire pour améliorer votre quotidien. Parce que Robert,
il n'est jamais trop tard.
Lundi, 18h.
Au Québec, ce n'est pas avec une publicité qu'on va sauver le français. Non.
C'est avec moi, Léo, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et vous, en train d'écouter la radio en français. Continuez comme ça, là. Un message de Léo
et du gouvernement du Québec.
Est-ce que tu sens cet arôme envoûtant et doux du café fraîchement moulu? Chez Tinteco, l'art du café colombien, nous vous faisons voyager dans la cordillère des Andes. On vous propose du café responsable, issu du commerce direct, fraîchement torréfié, bien préparé et délicieux. Viens nous voir au 198 rue Hermine, quartier Saint-Sauveur, et rapporte du